Vous êtes sur RTL.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Damien et Cédric Beltrame, les frères d'Arnaud Beltrame. Ils publient demain aux éditions Grasset, Au nom du frère.
Et bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. On vous remercie en effet d'être sur RTL ce matin, d'autant que ce sera votre seule intervention ensemble pour évoquer ce livre chez Grasset. Damien, bonjour. Vous êtes le Benjamin, vous êtes avec nous en studio, vous êtes le petit dernier, comme on dit, des trois frères. Et Cédric, vous êtes à Singapour. Bonjour Cédric.
Tout à fait, bonjour Isabelle, je suis effectivement à Singapour.
Voilà, on est en début d'après-midi, hein, 14h30, c'est ça ? Vous vivez là-bas.
Voilà, exactement.
Et vous êtes le cadet. Je sais que tous les deux, vous n'aimez pas le mot sacrifice. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre entier qui s'intitule « L'intention et la fin ». Mais quand même, Damien, votre grand frère, qui prend la place d'un otage à Trèbes, dans le Super U, c'est bien un sacrifice, puisqu'il risque la mort.
Eh bien, moi, je ne pense pas, puisque, si vous voulez, un sacrifice, ça sous-entend qu'on sait ce qui nous attend, et je ne pense pas qu'Arnaud savait exactement ce qu'il attendait. Il connaissait les risques, il savait très bien qu'il avait affaire à un fou dangereux qui avait déjà goûté au sang. Mais ce n'était pas un sacrifice pour la bonne et simple raison qu'on limite souvent Arnaud a un geste. En fait, son geste n'est pas simplement d'avoir échangé sa place avec un otage. Son geste, c'est d'avoir suivi le peloton du PSIG à l'entrée, d'avoir parlé avec le terroriste, d'avoir échangé sa place, d'avoir été en huis clos avec le terroriste pendant 2 heures, d'être sorti, d'avoir négocié avec le GIGN, puis d'avoir attaqué le terroriste. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un sacrifice. C'est tout ça, c'était dans une sorte de logique, une sorte de processus où il était là pour aider non seulement l'otage à s'en sortir et aussi les autres personnes qui étaient. Il y avait d'autres personnes qui étaient aussi dans le supérieur à ce moment-là. Et donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse parler de sacrifice à ce moment-là.
Vous savez ce qu'il s'est passé, Cédric, pendant les 2-3 heures qu'il a passé avec le terroriste ? Est-ce que vous en savez plus ?
Alors aujourd'hui, nous avons eu accès effectivement à l'enquête. Nous avons certains éléments de réponse. Malheureusement, peu de détails peuvent filtrer parce qu'effectivement, c'était en huis clos. Les caméras ne pouvaient pas vraiment filmer ce qui se passait. Il y avait parfois les communications, le téléphone. Donc on ne peut pas avoir beaucoup de détails sur ce qui s'est passé pendant ce huis clos. Nous, connaissant Arnaud et Damien, on s'imagine qu'il a effectivement essayé tout ce qu'il pouvait en termes de négociations. Il a dû parler effectivement des différents sujets, il a réussi à tenir plus de 2 heures avec ce terroriste. Il a sûrement dû être très calme. On a quelques épisodes où on sait qu'il a réussi à sortir un peu de la salle des coffres, qu'il y a eu la discussion avec le négociateur GIGN. Donc c'est difficile de reconstituer le film exactement. Sachant que ça a été, comme dit Damien, une opération qui a duré longtemps, donc on ne peut pas parler de sacrifice, puisqu'il était là pour vraiment avoir quelque chose en tête, il avait un plan en tête, il était mettra bien, on sait qu'il était formé en termes de négociation, on sait qu'il avait confiance en lui, on sait qu'il était solide, il a vraiment été pour faire une action sur le terrain, une action militaire. Donc pour moi, c'est plutôt un sacrifice, et même si on a vu après, sur la fin, rappelez-vous, ces derniers mots, c'est attaque, assaut, assaut.
Exactement, il lance l'assaut.
Mais pas au combat.
Parce que vous décrivez bien dans le livre, il y a beaucoup d'anecdotes qui racontent le caractère de votre frère, et puis à travers ce livre, vous cherchez en permanence à comprendre justement pourquoi il a eu ce geste. Et vous décrivez, c'est ça, un trait de son caractère, il a une capacité de persuasion impressionnante, ça le caractérise. Ça veut dire qu'il aimait convaincre, il pouvait y passer des heures. Il avait une tchatche terrible, dit d'ailleurs un de ses copains. Vous pensez qu'il a cherché à le convaincre, le terroriste ?
Ah oui, bien sûr, évidemment. Enfin, bien sûr. Encore une fois, ce que disait Cédric, c'est qu'en fait, dans la salle des coffres...
Parce qu'il y avait un négociateur, par ailleurs.
Mais il a pris la suite après la sortie de la salle des coffres. Mais en fait, pendant la salle des coffres, les fameuses 2 heures, tout ce qu'on sait, c'est que quand Arnaud rentre dans la salle des coffres, il dit au peloton du PSIG, aux 6 hommes du PSIG, hommes et femmes, il leur dit barrez-vous, je ne veux pas mourir. Ça veut dire, en fait, que le terroriste savait que les gars du PSIG étaient planqués derrière les rayons. Il leur a dit non, partez, parce qu'en fait ça va l'énerver et je ne veux pas mourir ici, moi, donc je vais m'en sortir. Ensuite, la salle du coffre se ferme et après, pendant 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, pendant 2 heures, on imagine, connaissant Arnaud, qu'il n'est pas resté inactif. Il a forcément été formé pour ça et puis il avait déjà, d'un point de vue naturel, comme vous dites, une gouaille d'enfer, une tchatche d'enfer. Je pense qu'il a discuté, entre guillemets, avec le terroriste.
Et puis à un moment, comme le disait Cédric tout à l'heure, votre frère, Arnaud Beltrame, à un moment, après avoir discuté, vous imaginez qu'il constate qu'il n'y arrive pas. Et là, il dit assaut, assaut. Et il dit au GIGN qui écoute, hein, il dit ben, voilà, ah, souvent, j'y vais. J'y vais.
Bah, et gros,
c'est
ça. Ouais.
Mais là, vous dites, c'est un héros, c'est un acte de bravoure, mais c'est pas un suicide.
Ah non, ça ne peut pas être un suicide. En fait, si vous voulez, c'est relativement simple à comprendre. Quand Arnaud a senti que la négociation... En fait, c'était le terroriste qui parlait avec le négociateur du GIGN, hein, d'accord. Donc ça, c'est très clair dans l'enquête. Ça n'allait nulle part. Le terroriste s'énervait, parce qu'en fait, je pense que le négociateur du GIGN a suivi le protocole et a parlé de la mère du terroriste. C'était pas quelque chose qui allait vraiment dans le bon sens, mais bon, c'était pas... On pense que le terroriste s'est énervé, ça se voit dans la retranscription. Et je pense qu'Arnaud s'est dit, c'est maintenant ou jamais, parce que j'ai pas envie de me faire abattre comme un chien. Donc je vais y aller maintenant, je vais tenter ma chance. Il vaut mieux avoir une chance sur 10 qu'une chance sur 1000. Donc il a pris les devants, et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que la notion de sacrifice, je pense, est à rejeter. C'est que à chaque fois, de toutes les actions qu'il a pu mener lors de cette intervention, que ce soit son arrivée sur les lieux, l'entrée, la salle des coffres, toutes les paroles qu'il a pu avoir jusqu'à ce final, c'est lui qui était moteur de sa propre destinée, on pourrait dire.
Il a pris ses responsabilités.
Il a pris ses responsabilités et surtout, il a dit je tente ma chance, quoi, j'y vais.
Parce que Cédric, il n'a respecté aucune procédure. Il a pris justement ce qu'on disait, ses responsabilités. Il y en a des militaires qui le contestent. Il aurait dû rester dans les clous, certains le pensent. Qu'est-ce que vous leur dites, Cédric ?
Alors, nous sommes dans une guerre asymétrique, nous sommes dans des situations extrêmement complexes à gérer. Il faut agir vite, il faut agir rapidement, et chacun prend ses propres priorités. Donc soit on suit le code, et puis effectivement, il y a peut-être avoir plus d'otages exécutés, plus de morts, soit de par ses propres convictions, de par son entraînement, de par ses modalités d'action, on prend une décision. Et aussi, le temps de décision est très important, très rapide. On voit de très nombreux acteurs russes qu'il y a eu. Tout se joue en quelques secondes. Si quelqu'un peut être là et peut empêcher un terroriste à lancer un objet, alerter plus vite, tout se joue en quelques secondes. Donc clairement, aujourd'hui, Arnaud, comme dit Damien, a pris une action sensée. Il connaît très bien le protocole, il sait très bien ce qui se passe. Il savait aussi, c'était reconnu par certains de ses collègues, que c'était la seule façon de pouvoir sauver l'otage, par exemple. Donc il aurait très bien pu effectivement rester sur le protocole et puis ça aurait été totalement différent. Il aurait sûrement eu plus de morts. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que des gens contredisent, puisque je me mettrais à leur place, on me dirait « Ah non, j'ai pas que ça devienne la norme, j'ai pas envie que ce soit un exemple. » C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on pense.
Est-ce qu'il est un modèle, votre frère ? Est-ce que c'est un exemple, Damien ?
Moi, si je me permets, je vais juste enchérir sur deux petites choses. Hein, c'est qu'en fait, est-ce qu'on en a voulu aux deux types, aux deux policiers de la BAC au Bataclan d'être rentrés avec des armes de poing pour aller descendre un terroriste armé d'une Kalachnikov? Est-ce qu'on leur a voulu de ne pas avoir respecté le protocole? Alors que c'est eux qui ont mis fin en fait à la tuerie. Est-ce qu'on en a voulu aux trois Marines du Thalys d'avoir couru face au type armé, encore une fois, un terroriste armé d'une arme de guerre, de tracer 10 mètres, lui sauter dessus et de mettre en état de nuire? Est-ce qu'on leur a voulu? Parce que le protocole, normalement, le gouvernement nous dit, en cas d'attaque terroriste, planquez-vous, enfin, fuyez et planquez-vous. Ben non. S'ils avaient fait ça, il y aurait peut-être eu 80 morts dans Thalys.
Damien, vous avez rencontré l'otage auquel il s'est substitué, une femme, non ?
Non.
Elle ne s'est pas manifestée auprès de vous ?
Non, nous non plus. Enfin, c'était pas...
Vous n'avez pas envie de la rencontrer ?
On n'a pas ressenti le besoin de le faire nécessairement. C'était pas... Si vous voulez, en fait, pour expliquer très, très brièvement, c'est que je pense que ça... le personnage d'Arnaud et on va dire ses actes finaux en fait dépassent, si vous voulez, l'humain. Enfin, si vous voulez, c'est comme il était érigé au rang de héros et vu ce qu'il a fait, j'ai pas forcément besoin moi de parler avec les gens qui ont vécu ces derniers instants. Voilà, à titre personnel. Hein. Après, pour la famille, je ne sais pas, mais
vous ne le regrettez pas. Ce terroriste, il vous le hante ou pas ?
Non, pas du tout.
Cédric ?
Non, en fait, je pense que ce qui est surtout, la conclusion pour moi, c'est pas le terroriste en tant que tel, c'est que ça, on disait avec Arnaud, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est arrivé n'importe où, n'importe quand, un pillage de trait dans Super Rue. Voilà, donc c'est ça qui est le plus choquant et que ça continue d'arriver. Donc, on est surtout dépité, on a l'impression que les moyens ne sont pas soit mis en place, soit qu'on ne sait pas comment faire pour résorber le problème. Donc, c'est plutôt cet aspect global de résorber le problème du terrorisme qui est vraiment plus frustrant. Et l'acte en lui-même, le terrorisme en lui-même, bon, c'est juste un numéro, c'est personne, c'est encore un petit trafiquant. Bon. Et le problème, c'est des profils comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui potentiellement peuvent passer à l'acte. Et ce qui vraiment nous choque, c'est que depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo, et moi personnellement je vois parce que il y a malheureusement un anniversaire là, ce qui m'a choqué, c'est qu'on en a parlé en disant que c'est la liberté d'expression, etc., que le gouvernement François Hollande a plutôt essayé de tirer profit de ce qui s'est passé pour reprendre la main d'un point de vue politique, alors que c'était une attaque par des Français, mais en France, et c'est pas les terroristes extérieurs. Et là, c'était vraiment un signal extrêmement fort. Il y a l'impression qu'on a sous-estimé cette menace, et après, on a bien eu sur la suite de Bataclan, Nice, etc., parce que la menace était chez nous. C'est surtout ça qui me fait beaucoup de mal.
On entend votre critique, et vous estimez qu'il y a eu de la récupération politique et une sous-estimation, en revanche, des moyens qui sont dédiés à cette lutte contre le terrorisme. On comprend que ça vous choque. Encore quelques instants. D'abord, dans votre histoire familiale, vous vous attardez dans le livre sur un conflit grave que vous avez eu tous les deux avec Arnaud autour de votre père, Jean-François, un père absent, un père violent, un père qui frappe votre mère au point qu'elle doit s'enfuir. C'est suffisamment important pour que vous ne l'esquiviez pas. Donc ce livre, vous dites tout des relations profondes avec votre frère. Par ailleurs, il y a depuis sa mort, combien de lieux, combien de rues, combien de squares qui ont été baptisés Arnaud Beltrame, vous le savez ?
On a perdu le compte, hein. plus d'une centaine.
Il y en a 18, je peux vous le dire. Il y en a 18.
Non,
il y en a plus ?
J'ai dû assister à 18. beaucoup. Non, on parle de centaines.
Moi aussi, je peux me permettre, Damien, on a des personnes qui nous aident à suivre, donc on a effectivement certains sites internet où on trace ensemble. Il y a plus d'une centaine actuellement. On a quasiment tous les lieux, places, villages, collèges.
Oui, tout. Les gendarmeries, les promotions d'officiers, les promotions de milliers. Non, bien sûr. Oui, 18, c'était le nombre auquel j'ai assisté.
Ah oui, j'ai mal compté.
Je suis resté sur Paris.
Ça vous rend fier ?
Bien sûr. En ce qui me concerne, c'est beaucoup plus facile à vivre grâce à ça, de me dire que mon frère n'est pas mort en vain et de me dire que il est érigé au rang de héros. Il sert à d'autres personnes que simplement nous, en fait. Il sert à la France, il sert à toutes les personnes qui veulent s'inspirer d'Arnaud, entre guillemets, qui sont comptés portés par son personnage et par ses différents actes. Moi, ça m'aide. C'est plus facile.
Un dernier mot pour clore cette interview consacrée à ce livre au nom du frère chez Grasset. Les Gilets jaunes s'en prennent aujourd'hui à des militaires, à des gendarmes, à des forces de l'ordre. Il en penserait quoi, Arnaud Beltrame ?
Je te la laisse, celle-là, Cédric.
Alors, aussi, les Gilets jaunes, il faut bien constater, pour moi, ce que je vois de Singapour, je vois la presse, c'était un mouvement qui était populaire, spontané au début, qu'on peut comprendre, qui était pacifiste au début, qui semblait maintenant plus concret, sur un niveau plus dur, plus populiste, plus violent. Et je trouve que le dialogue tarde à venir. Et aujourd'hui, on voit les scènes de violence, les attaques du policier qui a dû sortir son arme, le boxeur qui frappe un gendarme au sol, la porte d'un ministère annexe qui défonce avec un Fenwick.
Qu'est-ce qu'il en penserait, lui, le militaire ?
Arnaud militaire, il serait choqué. Il serait choqué en premier. Il comprendrait effectivement qu'il peut avoir certaines personnes qui veulent manifester. Mais je pense que lui, il serait vraiment dans l'application de l'état de droit, de la sécurité avant tout, de manifester pacifiquement et effectivement d'éradiquer les casseurs, les gens violents qui viennent ici, qui n'ont pas de vraies revendications, qui sont juste entrés par la fête de masse. Et on ne sait pas trop ce qu'ils viennent faire ici.
Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été en ligne depuis Singapour pour témoigner avec votre frère. Juste un mot, il reste quelques secondes. Sur ce sujet, vous vouliez dire ? Vous êtes d'accord ?
J'aurais juste tendance à... sur le sujet des Gilets jaunes, pardon. Arnaud serait horrifié des violences, même s'il y a des violences dans les deux camps, c'est toujours le cas lors des manifestations, mais je pense que le sujet est beaucoup trop complexe pour en reparler là, comme ça, à froid, il faut en parler 20 minutes.
Et il faut lire le livre, au nom du frère chez Grasset.
Merci
d'avoir été tous les deux en direct sur RTL ce matin.